Voilà, bonsoir à chacun. On va examiner ce soir un quatrième pilier qui se trouve dans la parole de Dieu. On a vu ensemble le domaine de la sanctification, être très saint comme le demande le Seigneur. Il y avait ensuite les parfums, et puis nous avons parlé hier de ce service. Il reste quelque chose d'intéressant, d'important. On va lire ensemble et découvrir ce quatrième point. On reprend notre lecture dans 1 Chronique, au chapitre 23, verset 13. « Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Amen. » Voilà, pour bénir à toujours en son nom. Je ne sais pas si nous sommes toujours capables de bénir comme il convient, mais c'est un exercice très facile lorsque quelqu'un nous a déjà béni. Par principe, le remerciement, puisque tu m'as béni, je te bénis, ça ne représente aucune difficulté. Mais est-ce que nous sommes capables de bénir quelqu'un qui vient de nous contrarier? Je pose la question. Quelqu'un qui, peut-être même plus qu'une contrariété légère, n'est-ce pas, a fait un blocage sur notre route, sur notre chemin. C'est pas facile. Je connais quelques disciples qui pourtant étaient avec Jésus, qui avaient une fâcheuse, j'allais dire, disposition de cœur. On va lire un passage et j'espère que vous vous reconnaissez pas dans ce passage. C'est un miroir, mais c'est pour les autres. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, on va lire à partir du verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, examinons ce qu'ils vont dire, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume, comme Élie le fit ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Ils allèrent dans un autre bourg. Amen. Il y a des gens qui ont de la mémoire pour certains textes des Écritures. Pas forcément le texte approprié à une circonstance donnée. On refuse le passage, et voilà que Jacques et Jean se souviennent d'un récit qui se trouve dans l'Ancien Testament, d'un homme, n'est-ce pas, envoyé serviteur de Dieu, qui a demandé à maintes reprises, pour régler les comptes d'une situation particulière, que le feu du ciel descende. Le feu du ciel est descendu, a consumé ses hommes, on a envoyé une nouvelle équipe, et de nouveau le feu du ciel est descendu, et puis une troisième équipe qui est arrivée en disant, de grâce, on ne voudrait pas subir le même sort que les autres. Ils ont appris quelle était la grandeur de Dieu. On respecte Dieu. C'est vrai que nous avons besoin d'apprendre des leçons de respect. Mais ici, devant la situation, devant le blocage, eh bien, nos deux disciples disent au Seigneur, « Veux-tu que nous commandions au feu du ciel de descendre ?» Comme ça va régler le problème. on ne va peut-être pas faire la même demande avec les mêmes mots. Mais je suis en train de me demander si parfois on ne suit pas intérieurement le même chemin. Puisque tu m'as fait, allez, j'emploie l'expression, une crasse. Oui, parce qu'il faut prendre un langage qu'on connaît parfois. Voilà, je ne vais certainement pas te bénir. Et quand on dit qu'on ne va pas te bénir, c'est plutôt qu'on va demander quelque chose pour que le feu descende, la difficulté descende, un problème puisse être là. On est loin de notre texte qui est en train de dire « bénir, mis à part, pour bénir à toujours en son nom ». Mes frères et sœurs, entre nous, ce n'est pas toujours facile de bénir. Un jour, quelqu'un ne voulait, pouvait pas supporter une personne. Et comme elle ne voulait pas prononcer le nom de la personne, etc., mais qu'elle savait qu'il y avait un conflit, elle a fait cette prière. « Seigneur, aide-moi à le supporter. » C'est déjà pas mal quand même. Hein? Parfois, on... Et puis, mais on est encore loin de « aide-moi à l'aimer ». Est-ce que vous savez faire la différence entre « supporter » et « aimer » ? Quand on supporte, c'est qu'il y a déjà un effort, c'est pas, il y a une pression. Et là, il nous est demandé d'aller plus loin, de bénir, bénir au nom de l'Éternel, bénir à toujours. J'ai lu dans la Bible, et vous connaissez ce Proverbe chapitre 10, verset 22, qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Ça, c'est bénir, c'est le point central, c'est ce que Dieu veut faire. Je dirais que, au-delà, je dirais presque que c'est le meilleur des parfums. Et je souhaite que vous soyez tous bénis du Seigneur ce soir. Parce que être béni de Dieu, ça va jusqu'au salut en Jésus-Christ. Ça va jusque dans ces délivrances profondes de notre vie. Bénir, c'est soigner d'une manière adéquate le peuple de Dieu. C'est ce que veut dire notre texte. Prends soin, et de l'amour, et de la délicatesse. Apporte ce qui convient à la vie, parce qu'on sait, dans les Écritures qu'il y a un témoignage, il y a un cheminement qui se fait quant à la bénédiction. C'est Laban qui a dit un jour, dans le livre de la Genèse, « L'Éternel m'a béni à cause de toi ». Dites donc, voulons-nous ce soir être des sources de bénédiction. Mais alors, des sources de bénédiction pour tout le monde. Il y a un petit peu moins d'amen. Mais ça se comprend. C'est tout à fait naturel. On a besoin que le Saint-Esprit nous transforme. On a besoin que le Saint-Esprit consume en nous ce qui est encore humain, ce qui est réactionnaire, ce qui fait partie de notre caractère, de façon à pouvoir proclamer la bénédiction de Dieu. Tu m'as fait du mal, mais que le Seigneur te bénisse quand même. Tu m'as amené dans la souffrance, je n'ai pas compris toujours. Vous savez, il faut un certain temps de réflexion parfois pour arriver à bénir au nom de l'Éternel. On n'a pas le temps de prendre tous les exemples de la Bible tant ils sont nombreux. Mais je connais un homme dans les Écritures, dans le livre de la Genèse, il s'appelle Joseph. Bon, c'est vrai que c'était un rapporteur, hein, au début. Son père l'envoyait pour donner la nourriture à ses frères, et puis quand il revenait, il disait ce que, pas seulement que ses frères étaient en bonne santé, ceci, cela, ça avait fait des tensions énormes. Et vous connaissez la suite. Un jour, ses frères ont dit, bah, le voilà, même le faiseur de songes, on va l'attraper, on va le faire mourir. Ça, c'est pas de l'amour, hein. J'appelle pas ça de la bénédiction. Et puis, ils ont vu une caravane qui passait. On va le vendre. Ils l'ont vendu. Mais Dieu prend toujours soin de ses enfants. Un jour, par les circonstances, toute la petite famille arrive parce qu'on cherchait à manger, il fallait du blé. Et qui est là pour les recevoir? Dites donc. Joseph. Heureusement que ce n'était pas Christian Capron. Hein. Oh, puis, ni vous non plus, après tout. Moi, je vois Joseph qui il se met incognito parce qu'il les reconnaît. C'est vrai qu'il va les éduquer, mais c'est vrai qu'il va y avoir des petits coins là, des petites épines, et tu vas ramener ton frère au monde. Bon, d'accord, mais quand même, il va donner la nourriture, il va donner le blé. Moi, je dis, il a vraiment été très bon, il les a bénis. J'en connais un, priez pour lui. Il a dit, ah les gars, on va bien s'amuser maintenant. On va bien s'amuser. Parce que tout ce que vous m'avez fait, vous allez me le payer. Puis comme on a des formules toutes faites, on ne dit pas simplement vous allez me le payer, on ajoute vous allez me le payer cher. Non, on connaît les qualificatifs, vous savez. Vous allez me le payer cher. La grâce de Dieu est intervenue. Il leur dira seulement à la fin, le mal, car il s'agissait bien de choses douloureuses, vraiment douloureuses. Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien. Et il va leur donner ce conseil, allez rentrer à la maison, mais ne vous disputez pas en chemin. Moi, je crois que c'est important. On voit là la bénédiction. Mes frères et sœurs, ce n'est pas toujours facile de bénir. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fasse grâce, hein, qu'il nous apporte son secours. Parce que c'est, je dirais, l'élément fondamental. Quand on regarde l'ordre chronologique des choses, c'est vrai qu'on ne pourra pas entrer dans la pleine capacité de bénir si on n'a pas respecté les étapes précédentes, les trois piliers précédents dont nous avons eu l'occasion de parler. Dans le Deutéronome, j'ai lu ceci, Deutéronome chapitre 21, verset 5. « Alors s'approcheront les sacrificateurs, fils de Lévi, car l'Éternel, ton Dieu, les a choisis pour qu'ils le servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel, et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure. » Voilà, pour qu'ils bénissent au nom de l'Éternel. Faire du bien. Mais entendons-nous, comprenons que bénir, ce n'est pas non plus tomber dans le laxisme. La vraie bénédiction, elle découle de la vérité. Et si vous souffrez d'un cancer et que vous allez voir le médecin, et pour ne pas vous contrarier, le médecin vous dit « ce n'est qu'une migraine ». Est-ce qu'il fait son travail? Est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il est bon à votre égard? Plus tard, vous le lui reprocherez. Vous lui direz, mais pour bénir quelqu'un, il faut être vrai avec ce quelqu'un. Il faut lui dire la vérité. Yeah. Et quand on a les moyens de l'aider, yeah, eh bien, en même temps que l'on dit les vérités, on apporte les solutions dans la parole de Dieu. C'est cela, bénir quelqu'un. Et on le voit bien ici pour prononcer sur les contestations, sur toutes les blessures. Il y a une femme dans le Nouveau Testament qui a été bénie. Elle a expliqué de quelle manière elle a été bénie. Cette femme, elle a rencontré Jésus au puits de Sichar. Ça vous dit quelque chose? Jésus, fatigué du voyage, était assis sur la margelle du puits, et puis cette femme vient. Et vous connaissez la conversation de Jésus avec cette femme. Il lui dit la vérité, et quand cette femme laisse sa cruche et s'en va dans le village, elle dit, venez voir, n'est-ce pas le Messie? Mais elle dit quelque chose de formidable. Il m'a dit toute la vérité. Il m'a dit toute la vérité. Moi, je crois que bénir quelqu'un, au point de vue même spirituel, le bénir jusqu'à ce qu'il entre dans la vie éternelle, c'est de pouvoir lui dire avec amour, c'est vrai, avec compassion, toute la vérité. Et la première vérité, si tu n'as pas Jésus, t'es perdu. Le péché, c'est la gangrène de ton âme. Si tu n'as pas Jésus, tu peux faire toutes les œuvres que tu veux. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Je reprends mon image du cancer. Si vous avez un cancer, vous pouvez faire toutes les œuvres que vous voulez, le ménage que vous voulez, les services que vous voulez. Ce n'est pas ça qui vous guérit. C'est le traitement particulier. Et nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. C'est bien de les faire parce que ça prouve que nous aimons les autres, que nous voulons bénir les autres. Mais il y a d'abord une bénédiction personnelle. Et si je veux vous voir bénis, mes frères et sœurs et amis, je dois vous dire ce soir que vous avez besoin de Jésus dans votre cœur. Vous avez besoin d'être sauvés. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un « va en paix » quand on sait que son âme est perdue. Ce n'est pas de la bénédiction. Il faut être vrai. Il m'a dit toute la vérité. Toute la vérité. Bénir, c'est prononcer des sentences justes. C'est plus que de dire « allez en paix » et que Dieu vous bénisse. Ça, c'est léger, c'est une phrase. Elle est belle. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas la prononcer. Mais elle est tellement profonde qu'il faut y réfléchir. C'est détourner le peuple de ses iniquités. Je viens d'en dire quelques mots. Non, mais c'est écrit dans la Bible. Dans Actes au chapitre 3 et au verset 26, il est dit ceci, « C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. » Voilà la vraie bénédiction, détourner quelqu'un de ses iniquités. Si quelqu'un est sur le chemin de l'erreur, pour moi le bénir, c'est lui dire « tu n'es pas dans la bonne direction ». Moi, je bénis Dieu pour les GPS. Quand je suis venu, là, pourtant, je devrais commencer à connaître la route. Le GPS, il a dit, troisième, au rond-point, troisième. Et moi, j'ai pris deuxième. Et immédiatement, il a dit, il a rectifié. J'ai dû passer par up et puis retrouver mon chemin. Enfin, moi, je trouve que c'est une bénédiction de pouvoir retrouver son chemin, non? Dire à quelqu'un qui est perdu, mais voilà le chemin du salut. Voilà la vérité. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un qui est perdu, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Tu les béniras. Tu béniras toujours. Et la plus grande des bénédictions, c'est le salut des âmes. Faut pas faire rêver les gens. Mais il faut les conduire à la libération de leurs péchés. Vraie libération. C'est cela la bénédiction. Le psalmiste disait dans le psaume 38 au verset 6, « Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. » Mes amis, c'est pas facile de dire la vérité. Et pourtant, croyez-vous que nous ayons vraiment besoin de la vérité? C'est elle qui nous aide. Je pensais un jour, comme cela, je dis, si un jour il y avait ce qu'on appelle une journée qui s'appelle la fête de la vérité. On ne dit que la vérité, quel qu'en soit le prix. Oh, Seigneur, que de drames sur la terre. Supposez que ce soit un dimanche. Le lundi, la terre est en feu. Qu'est-ce que tu m'as dit hier? Est-ce que tu peux le répéter? C'était hier la fête de la vérité. Mais mes amis, la fête de la vérité, c'est 365 jours sur 365. C'est cela, être béni. Si nous considérons l'état du peuple selon la description que nous révèle le prophète Ésaïe, alors on s'aperçoit qu'il y a un travail colossal. Le peuple de Dieu doit prier. Le peuple de Dieu doit s'investir. Parce que bénir, ce n'est pas juste une idée, c'est un travail. C'est un travail profond. Jésus a envoyé ses disciples deux à deux pour qu'ils proclament l'évangile, pour que la grâce aille jusqu'aux extrémités de la terre. Et si je veux que vous soyez bénis ce soir, je n'ai pas le droit de tricher avec vous. Je n'ai pas le droit de dire à la personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans son cœur qu'elle va aller au ciel. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, sais-tu que tu as un badge? Peut-être tu ne le vois pas bien. Un badge sur ton cœur, comme moi j'en avais un autrefois, sur lequel il était écrit ces mots, « Bon pour l'enfer ». Terrible. Bon pour l'enfer. La grâce est venue. Des chrétiens m'ont parlé. Des pasteurs ont prêché. Et la bénédiction de Jésus est descendue sur ma vie. J'ai compris un jour, j'étais malheureux, bon pour l'enfer. C'est pénible. Alors, Dieu a fait quelque chose de formidable. Il a laissé les deux premiers mots. Il a changé juste le dernier. Maintenant, c'est bon pour le ciel. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que vous préférez, vous, comme badge? Comme inscription? Il y en a combien qui préfèrent bon pour l'enfer? Il y en a combien maintenant qui préfèrent bon pour le ciel? Bon. Ah mais je continue, hein, c'est pour votre bénédiction. Il y en a combien dans cet auditoire qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et qui ont confessé cette adhésion au Seigneur par le baptême d'eau? Ouais. Alors ceux qui n'ont pas levé leurs mains là, moi j'ai envie que vous soyez bénis. Je ne suis pas le seul. Que tardez-vous ? Que tardez-vous ? Pour être dans cette obéissance au Seigneur Jésus. Non, mais c'est cela la bénédiction. Je ne veux pas vous amener dans du rêve, mais dans la réalité du terrain. C'est important. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Et ma folie, c'était de rejeter le Seigneur. Ma folie, c'était de remettre à demain. Ma folie, c'était de rester dans la distance, simplement presque. Presque. Il était presque béni. Mais il n'était pas béni. Dites les étudiants, j'ai presque réussi mon examen. Ça veut dire quoi ? Ben, tu ne l'as pas eu. Le médecin l'a presque sauvé. Sauf qu'on va faire son service d'inhumation dans quelques jours. Presque. Dix vierges, cinq sages, cinq folles. Il y en a cinq qui entrent quand la porte est ouverte, parce qu'elles avaient de l'huile dans leur lampe. L'image de cette bénédiction qu'elles désiraient, qu'elles entretenaient, et cinq autres qui, en dernière minute, se sont mis à courir partout parce qu'elles ont compris cette nécessité. Mais la Bible dit que lorsqu'elles sont arrivées à la porte était fermée. Elles ont cogné à la porte. Mais on a dit, c'est trop tard. Elles étaient presque sauvées. Elles étaient presque bénies. Mais elles étaient perdues. Moi, je veux vraiment que vous soyez bénis. Et pour que vous soyez bénis, il faut plus qu'une étude. Il faut que vous receviez ce soir le seul qui a la capacité de sauver, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie, celui qui vous aime. C'est de lui que vient la bénédiction. C'est important. La vraie bénédiction, c'est la gloire de Dieu au sein du peuple de Dieu. La vraie bénédiction, c'est la présence de Jésus, c'est la présence du Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu dans ta vie, c'est la gloire de Dieu dans ton existence, dans ton parcours. Et tu peux dire, là, mais le Seigneur me bénit, c'est pas facile, c'est quelquefois même c'est terriblement difficile. Mais Seigneur, tu me bénis. Et une fois que tu es béni, le Seigneur te demande d'aller bénir les autres. C'est-à-dire de les amener au salut. Est-ce que vous êtes prêts à cela ? J'ai lu qu'à un moment, ce n'était pas possible parce que dans 2 Chroniques, chapitre 30, verset 3, j'ai ce texte. Car on ne pouvait pas la faire en son temps, cette bénédiction, ce sacrifice, parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Attendez, les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre. Ça veut dire quoi ? Vous savez que nous avons tous une responsabilité. Est-ce que vous voulez que la bénédiction soit dans vos familles ? Est-ce que vous voulez que la bénédiction soit parmi vos collègues de travail ? Est-ce que vous voulez que la bénédiction soit dans cette église ? Est-ce que vous voulez que la bénédiction soit aussi sur la région parisienne d'où je suis ? Oh merci, c'est bien. Je pensais que vous vouliez juste pour ici. Non, mais si c'est cela, nous avons à nous lever. Nous avons à prier, nous avons quelque chose à faire, nous avons à répondre à ce service. Pas simplement comme ça, non, c'est une mission, c'est demander par Dieu. Je sais bien que c'est pas facile. Peut-être on va se moquer de vous, mais vous ne serez pas les premières personnes dont on se moque parce qu'elles annoncent l'évangile, parce qu'elles veulent amener la vraie bénédiction, le salut, la vie éternelle. Dans 2 Chroniques, chapitre 30, verset 10, j'ai lu ceci. Les coureurs allèrent de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé jusqu'à Zabulon pour porter les choses de Dieu, mais on se riait et l'on se moquait d'eux. Peut-être qu'on se moque de toi. Et si on se moque de toi, t'as pas envie de bénir. C'est pas facile. On a chacun son tempérament, hein. Vous êtes prêts, vous, à bénir tout le monde? Que le Seigneur entende un seul amen, hein. Dans notre cœur, on voudrait. Frères et sœurs, on voudrait. Puis un moment, notre nature est là. Notre nature est là. On est un peu, on parlait il y a quelques instants, et ça me revient à l'esprit, vous savez, du fils prodigue. Vous connaissez la parabole du fils prodigue? Oui, ce n'est pas nécessaire de la lire. Vous connaissez dans Luc chapitre 15. Vous savez que le fils prodigue est revenu à la maison? Parce qu'il est entré en lui-même, il a réfléchi. Je vous pose la question ce soir. Et si c'était le fils aîné qui l'avait reçu en premier? Vous savez que c'est le père qui l'a accueilli. Est-ce que vous croyez que le fils aîné aurait béni son frère? Moi, je suis convaincu que si le fils prodigue avait rencontré en premier le fils aîné, il serait reparti. Parce que quand on voit la conversation du fils aîné avec le père au sujet du fils prodigue, on s'aperçoit que le fils aîné n'avait pas du tout envie de bénir son frère. Moi, je bénis Dieu parce que c'est Dieu qui nous a d'abord accueillis. Mais, puisque nous sommes appelés à bénir, entre nous soit dit, ne jouons pas les fils aînés et réjouissons-nous quand quelqu'un même revient dans la maison du Seigneur. Il faut faire très attention parce que bénir, c'est aussi toute une dimension de vie. Tiens, te voilà, toi. Oh, dis donc, après tout ce que t'as fait, hein. Ouh, là, moi, ta place, Je sais pas si, qu'est-ce qu'on pense. Déjà, quand vous revenez tout petit. Vous revenez humilié. Vous savez que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, comme il fallait, quand il le fallait. Et quand vous avez un accueil aussi chaleureux, vous vous sentez tout de suite béni. Enfin, béni pour repartir. Oui, nous en sourions. Mais c'est plutôt une histoire à pleurer. Parce que c'est vraiment, parfois, c'est vraiment triste. Nous sommes appelés à bénir. Bénir, c'est soutenir. Bénir, c'est aider. Bénir, c'est plus que supporter. C'est porter. Combien de fois il m'est arrivé à bois de dire, oh, vous savez, c'est bien, je le supporte. Je crois que le Seigneur aurait aimé plutôt m'entendre dire, je le porte. Vous savez faire la différence entre porter quelqu'un et supporter quelqu'un? Quand on supporte quelqu'un, c'est un véritable effort. Oui, parce que je ne peux pas faire autrement, hein. Et donc au travail, vous n'allez pas éjecter vos collègues, hein, même s'ils ne sont pas toujours de caractère
facile. Oh, puis après tout, s'ils ne sont pas de caractère facile, c'est peut-être parce que vous, vous n'êtes pas non plus de caractère facile. Hein. Moi, j'en sais rien. Hein. Il y a quelquefois du répondant dans la vie. Miroir, miroir. Hein. Oh là ! Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce pharisien qui, moi, je encore. Tandis que lui, rien. Lequel est rentré justifié ? Celui qui se frappait la poitrine et qui disait à Dieu, sois apaisé envers moi, s'il te plaît. Je ne suis pas meilleur que les autres. J'ai besoin d'être béni par toi, et j'ai aussi besoin d'apprendre à bénir. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes, que tu m'aides. C'est quelque chose d'important. Il faut aller. C'est dans la parole de Dieu. Il y a tout un ensemble de bénédictions. Sous le règne d'Ézéchias, le peuple se réunissait. Et il y avait les enfants. On reprenait la lecture de la Bible parce qu'à un moment, on avait oublié les Écritures. Et là, on a proclamé les choses de Dieu. Et puis, il nous a dit, le peuple a été béni. Chacun est rentré joyeux. Moi, je crois que la vraie bénédiction, elle engendre de la joie. Elle engendre de la joie. Plus que ce que le monde matériel ou intellectuel peut nous donner. Et Dieu veut que nous soyons bénis. Je pense à ce ministre de la reine de Candace, cet eunuque éthiopien, sur le chemin désert. Il est là, il est en train de lire, il ne comprend pas trop les choses, mais Dieu veut le bénir. Alors il parle à Philippe, qui est dans une mission. Il dit à Philippe, tu vas aller sur le chemin désert. Mais non, Seigneur, je suis occupé, regarde, il y a une mission, ça fonctionne. Tu vas là-bas. Et on revient en service. Tu discutes pas, Philippe, tu vas sur le chemin des heures. Oh, pour un. Et il y va. Puis il dit des choses étonnantes. Moi, j'aurais jamais osé. Ça se fait pas, mes frères et sœurs. Dire à quelqu'un, est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Vous faites comme ça, vous voyez quelqu'un dans le bus, le tram bureau, assis sur un banc, est-ce que tu comprends ce que tu lis ? C'est étrange, les chemins de Dieu. Et cet homme, avec une humilité, une simplicité, non, il dit, je ne comprends pas, à moins que quelqu'un ne m'explique. Et puis il dit, bien, c'est toi, explique-moi, de quoi s'agit-il ? Et puis, la bénédiction là, le Saint-Esprit agit, parce que quand on veut vraiment bénir les âmes, je crois que Dieu les bénit, tout simplement. Nous sommes un peu comme ces petites gouttes d'eau, n'est-ce pas, que le Seigneur envoie pour bénir, pour arroser, pour faire du bien. Et cet homme, d'un seul coup, il voit de l'eau. Parce que, regardez, on est dans le désert, mais Dieu a tout prévu pour la bénédiction. Moi, je suis stupéfait. On est là, il est sur un chemin désert. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'eau. Et il voit de l'eau. Il dit, mais c'est quoi ? C'est un mirage. C'est de l'eau, c'est bien de l'eau, oui. Alors, il arrête le char. Stop ! On descend. Et puis, il dit, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Attends un peu. Il y a toute une instruction, hein. Oh là là, t'as beau être nuque éthiopien, ministre de la reine de Candace, déjà t'as pas compris, fais la différence entre tel texte, il a fallu que je t'explique, et tu veux déjà me...
C'était beaucoup plus simple. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, ça c'est la vraie bénédiction. Et il a dit, je crois.
je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et je veux être béni. Et je viens de comprendre que ma bénédiction, elle est dans un engagement avec le Seigneur. Ma bénédiction, c'est pas seulement d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Ma vraie bénédiction, c'est un engagement personnel avec Jésus. Nous, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour que vous puissiez être bénis. Et dans mon cœur, tout en prêchant, je dis ce soir, bénis-les, Seigneur, bénis-les, Seigneur. Moi, je sais pas ce dont ils ont besoin, mais toi, tu le sais, Seigneur. Tu le sais. Et puis, hop, l'Esprit enlève Philippe. Oh non, mais c'est époustouflant, les textes de la Bible. Il arrive comme ça, juste sur un chemin désert, il proclame, il le baptise, l'autre, il se tourne. Il n'est plus là. Philippe ! Philippe ! Pas de réponse. Cependant, il est quand même écrit que tout joyeux. C'est pas une bénédiction, ça, tout joyeux ? Non, mais attendez. Moi, je ne suis pas expert en la matière. Mais je sais quand même distinguer un visage triste d'un visage joyeux. Non ? Ah, quand quelqu'un a la joie, écoutez, ça se voit. Même s'il veut se faire humble et discret, un joyeux, c'est pas triste. Pardonnez-moi, j'ai le mot. Jésus l'avait remarqué, deux disciples, n'est-ce pas, qui avaient besoin de bénédiction, et il leur dit, mais qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez tout triste ? C'est vrai que si vous entretenez des conversations tristes, vous n'allez pas être joyeux. C'est pourquoi, quand nous voulons bénir quelqu'un, il faut penser que la vraie bénédiction, c'est la présence de Jésus. La vraie bénédiction, c'est la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a une puissance. Si vous voulez, une personne n'a pas la Bible, donnez-lui au moins les évangiles. J'étais gamin, je me souviens d'un témoignage de mon père. Et lorsqu'il travaillait à la SNCF, le long des voies, un soir, il avait, c'était le journal, à l'époque, la 11e heure, ça existe encore, et puis il distribuait comme cela. Et puis il y avait des tziganes qui étaient là, et puis mon père distribue. Et le lendemain, il voit un jeune gamin qui arrive en courant et qui dit « Monsieur, monsieur !» Vous n'en avez pas encore des journaux ? Mon père dit, mais pourquoi ? Il dit, parce que papa et maman, hier, ils ont lu le journal et pour la première fois, ils ne se sont pas battus. Pouah ! Dites donc, mettez-vous à la place d'un enfant qui voit des querelles en permanence. Et pour une fois, ils partagent, ils lisent la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est une bénédiction, c'est la source de la bénédiction. Et moi, je vous conseille de lire et de relire la Bible. C'est le livre de Dieu, c'est pas le livre des hommes, c'est le livre de Dieu. Et ça change, ça bénit. Qu'est-ce qui se passe pour que tu deviennes si paisible ? Ne dites pas « j'ai un secret ». Je lis ma Bible.
Bon, tu lis ta Bible. T'es pas un homme moderne. J'ai pas besoin d'être moderne, moi. J'ai juste besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'être heureux. J'ai besoin de la joie du Saint-Esprit. Moi, moderne, pas moderne, de toute façon, j'ai l'âge que j'ai, puis je vais pas le changer.
Mais quand on lit la parole de Dieu, elle est bénédiction. Et moi, je voudrais que vous soyez bénis. Dites donc, à quand remonte votre dernière lecture personnelle des Écritures ? Ah non, mais j'y vais carrément, moi. Pose la question, hein. Un jour, j'ai lu un petit récit, je l'ai pas là. Tiens, c'est le dialogue d'une Bible. Elle raconte son séjour pour les vacances. Comment voulez-vous que la personne puisse être bénie après?
Il dit, on m'a bien calé entre le linge, les vêtements, parce qu'on partait pour un long voyage, pour l'été. Le seul problème, c'est qu'on a sorti tous les vêtements, et moi je suis resté dans la valise pendant 30 jours.
Est-ce que vous pouvez vraiment être béni et bénir les autres s'il n'y a pas la parole de Dieu? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Vous allez me dire, mais je ne sais pas lire. Alors, je vais peut-être vous paraître brutal. Priez Dieu et apprenez à lire. C'est possible d'apprendre à lire. Moi, j'ai connu des personnes dans l'église de Saint-Denis qui ne savaient pas lire. Et lorsqu'elles ont prié Dieu, et dans l'année, elles ont appris à lire, elles l'ont fait pour lire la Bible. Et Dieu les a bénies. Voilà les pistes de la bénédiction. C'est important, ben, il faut faire ce qui est droit, ben, et ce qui est important, ben, nous sommes appelés à bénir. Il y a beaucoup de passages dans les Écritures comme cela qui sont là pour nous aider. Et c'est pourquoi ce soir, nous devons nous poser ensemble la question, ben, est-ce que j'ai envie que mon prochain soit béni? Que mon épouse soit bénie, que mon mari soit béni, que mes enfants soient bénis. Il faut que je me tienne devant Dieu. Il est la source de la bénédiction. Il faut que l'Église soit en prière pour bénir, pour bénir. Oh, je sais, vous allez, je ne suis qu'une petite gouttelette. Insignifiant. Ah oui, c'est vrai que tu es qu'une petite gouttelette. Et quand on regarde les besoins de la terre, qu'est-ce qu'une gouttelette peut faire? En arrivant ce soir, il y avait de la bruine. C'est fin, hein? C'est fin. Pourtant, j'ai dû mettre les essuie-glaces. Parce qu'une petite goutte à côté d'une autre petite goutte, et puis d'une autre petite goutte, et d'une autre petite goutte, ben ça arrive à tout mouiller. Un chrétien qui veut que sa ville soit bénie, et un autre chrétien qui veut la même chose, une petite goutte, juste une autre petite goutte, qui se retrouve à la réunion de prière. Oh, c'est pas un gros mot, la réunion de prière, hein? Il y en a, je sais, ça les traumatise. Mais c'est un lieu de grâce. C'est un lieu de bénédiction. C'est là où les gouttelettes se forment. C'est là où la bénédiction prend naissance. Et puis Dieu la fait descendre ensuite. Ta voix, mais plus ma voix, plus la voix de tel frère et de telle sœur pour bénir. Alors Dieu bénit. Je voudrais que l'on comprenne ce soir que nous sommes parfois au bénéfice de la foi des autres. Un homme était paralytique. Vous connaissez le paralytique? Quatre amis. Il a quatre amis. Regarde, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va t'amener à Jésus, on sait qu'il est là. Il y avait des obstacles. Ne croyez pas que le chemin de la bénédiction soit sans obstacle. Vous ne pouvez pas rentrer. Je ne sais pas si c'est le paralytique qui, avec ses yeux, a dit « Eh les gars, par là, il y avait de quoi monter sur la terrasse. » Ils ont dégagé, ils descendent. Il nous a dit « Jésus voyant leur foi ». Jésus voyant leur foi. Et Jésus s'est immédiatement occupé du paralytique. D'abord en pardonnant ses péchés. Ensuite, il lui a dit, lève-toi, quand on lit. Il y a une chose que j'ai trouvée étonnante. C'est que l'homme qui n'avait pas de place pour entrer, en a quand même trouvé une pour ressortir.
Moi, je regarde les textes de la Bible, que voulez-vous? Vous allez me dire, je suis peut-être simpliste, hein, peuvent pas rentrer. Mon mêle en toi, il est là, Jésus l'a pas dit, reprenez-le par le toit et redescendez-le par les escaliers. Non, le texte est là. Il... Vous savez, quand le cœur aime, quand la bénédiction est là, il y a toujours de la place pour le prochain. Il y a de la place pour l'autre. Je voudrais qu'on prie ce soir pour que nous devenions tous, ne serait-ce qu'une gouttelette de bénédiction. Mais cette gouttelette, l'une à côté de l'autre, comme nous le sommes ce soir, Dieu va en former un nuage. Un nuage qui, descendant sur la ville de Nantes et de ses environs, permettra le salut encore de beaucoup d'âmes, la guérison de beaucoup de malades, la délivrance. Je crois que c'est là aussi une parole prophétique. Quand il y a l'union des cœurs et qu'on désire pas seulement recevoir pour soi. Oui, il faut recevoir pour soi, mais il faut se dire, Seigneur, sers-toi de moi, afin que l'autre soit béni. Je veux voir mon frère béni, je veux voir ma sœur bénie, je veux voir toute personne qui franchit cette porte être bénie par toi. Et pour moi, Seigneur, la bénédiction suprême, c'est l'âme sauvée, c'est quelqu'un qui te reçoit, c'est pas quelqu'un qui dit « il a bien parlé le pasteur », c'est pas quelqu'un qui dit « le pasteur il est sympathique », non, non, c'est « Jésus aime le sauveur » et Jésus devient « mon sauveur ». Et quand tu dis « Jésus est mon sauveur, Jésus est dans mon cœur », alors moi je peux partir tranquille, je dis « ça y est, il est béni ». Il est béni. Il n'est pas seulement en voie de guérison. Bon, ça fait du bien d'entendre que quelqu'un est en voie de guérison. Mais c'est quand même mieux quand on dit « il n'a plus besoin d'aller à l'hôpital ». Il est guéri. Il est guéri. Pour bénir à toujours. Seigneur, aide-nous à bénir. C'est pas toujours facile. C'est pas le feu du ciel que je te demande, Seigneur, le feu de la condamnation que je te demande. Ce soir, sur cet auditoire et sur ma propre vie, c'est le feu du Saint-Esprit. Le feu de la Pentecôte. Le feu qui a fait que dans toutes les langues, on a parlé des merveilles de Dieu, de la grandeur de Dieu. Ce feu, cette puissance inouïe qui a fait que les hommes ont commencé à parler. Hommes, frères, que devons-nous faire pour être sauvés? Ah, la voilà, la voix de la bénédiction. Que devons-nous faire pour être sauvés? Que chacun se repente de ses péchés. Croyez en Jésus-Christ. Soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, vous entrez dans le royaume de Dieu, et la grâce de Dieu devient votre grâce, votre bénédiction. Les ténèbres sont chassées parce que la lumière vient. C'est formidable, la lumière. Ça chasse les ténèbres. L'acte de condamnation, aussi épais soit-il, est déchiré. Moi, je trouve que c'est une bénédiction de voir son acte de condamnation déchiré. Parce que quelqu'un l'a fait, parce que quelqu'un a payé à la place. Non, je ne suis pas en train de vous dire, quand vous allez rentrer à la maison, déchirez vos factures. Non, non, ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais si, quand vous arrivez chez vous, quelqu'un vous téléphone en disant « t'inquiète pas, j'ai payé à ta place et peux te donner la preuve que c'est payé », n'allez pas payer la facture deux fois quand même. Vous êtes assez sensé pour ne pas la payer deux fois, à moins que vous soyez incrédule. Il a payé ta dette. Tu peux être béni, il a payé ta dette.
et personne ne peut t'empêcher de recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel si toi tu veux le recevoir comme ton sauveur personnel. Même pas le diable peut t'empêcher. Parce que Jésus est plus fort que lui. Et quand on dit au Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, c'est aujourd'hui l'instant béni. Seigneur Jésus, prends-moi tel que je suis, dans ma misère, dans mon péché, etc. Alors le Seigneur Jésus, il vient. Il est venu dans le cœur de mes frères, il est venu dans le cœur des chrétiens, il est venu dans mon cœur. Et ce soir, il veut venir aussi dans ton cœur. Veux-tu le recevoir? Courbons nos fronts. Seigneur, vraiment tu veux bénir. Tu connais les vies. Tu ne veux pas que quelqu'un ce soir soit presque sauvé. Tu ne veux pas que quelqu'un soit presque guéri. Tu ne veux pas que quelqu'un soit presque heureux. Seigneur, tu veux le salut complet, parfait, avec la joie du Saint-Esprit. Seigneur, je sais que je suis avec mes limites humaines, mais je crois dans le pouvoir illimité du Saint-Esprit pour convaincre de péché, de justice, de jugement, de la puissance de ton amour. Je sais qu'il n'y a pas une personne que tu rejettes ce soir. Peut-être quelqu'un ne veut pas te donner sa vie, peut-être quelqu'un ne veut pas s'engager avec toi, mais toi, Seigneur, tu aimes toutes les vies. Tu veux bénir toutes les vies. Je veux les bénir en ton nom, Seigneur. Tu peux faire que ce soir, il y ait la joie du ciel dans tous les cœurs. Étends tes mains, use de grâce et permets-nous en tant que chrétiens d'être ces gouttelettes qui, unies les unes aux autres, forment un nuage de bénédiction dans un monde qui en a tant besoin, sur cette ville de Nantes, sur sa région, Seigneur, dans les familles que nous représentons ce soir, au travail, étends tes mains. Nous n'avons qu'un désir maintenant, bénir en ton nom, bénir encore et bénir toujours en ta compagnie, assisté par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse réellement et puissamment.